Nous sommes au lundi 14 août 2023 et il sonne 11h, passé de quelques instants, et nous sommes très heureux de vous retrouver en ce début de semaine, et c'est le premier numéro de l'émission Club de la Presse pour le compte de cette semaine. Michel Vitogbe Kokou Tomega est à la mise en onde de cette émission. Jérôme Dakouta est à la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou au micro. L'émission Club de la Presse, c'est avec nos radios partenaires, grâce auxquelles vous pouvez nous suivre partout au Togo, Radio Lumière à Anero, Radio La Paix à Takbamé, Centrale FM à Sokodé, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie au grand nord du pays à Dapaon. Vous pouvez également nous suivre partout dans le monde entier sur nos différentes plateformes numériques et aussi nos radios numériques partenaires Ibn Radio et Radio Les Bénins. Un Club de la Presse, c'est des analyses, commentaires, décryptage de l'actualité d'ici et d'ailleurs avec nos confrères journalistes en studio et aussi des invités sur le plateau avec moi. Alors, parlant de journalistes, le premier à venir, c'est Uriel Enyang. Uriel, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à toutes les auditrices, à tous les auditeurs des Canal FM. Très heureux de partager ce joli plateau avec toi et tous les confrères et invités qui seront là.
Merci, je rappelle tout simplement que nous avons un nouveau plateau et vous l'avez sans doute constaté, un nouveau plateau quand même qui fait rêver.
Non, tout à fait. Je me plains à la place de ceux qui seront absents aujourd'hui parce que je fais partie de ceux-là qui ont l'honneur d'inaugurer ce nouveau et joli plateau. Félicitations au DG de Canal FM. Félicitations aussi à tous les personnels. C'est un effort louable malgré les temps économiquement difficiles. Les efforts continuent.
Alors, vous l'avez dit, c'est un honneur. Je sais qu'il y a d'autres confrères journalistes également que nous attendons dans cette émission. Et ils auront aussi l'honneur de découvrir ce nouveau plateau. Et au-delà de cela, nous avons aussi des invités. Nous allons parler de Djouni Nyozan dans cette émission. Et ce serait bien évidemment avec le comité d'organisation alors de cette fête traditionnelle. Alors, parlant de fête traditionnelle, c'est vrai que le week-end a été très riche en animation culturelle, en animation traditionnelle, et des journaux sont revenus alors sur cela ce matin. Dans les kiosques ce matin, nous pouvons retrouver le journal Nouvelle Opinion qui nous parle de Aïzan 2023. Madame Tiégan a représenté le chef de l'État aux festivités finales à Thiviers. Encore, autre journal, c'est Togo Matin. Le journal Togo Matin qui titre surtout sur ce sujet. Alors, la PA représente le PR à la fête du haricot à Aïzan, festivité rehaussée. Alors, autre journal, c'est Vision d'Afrique. Le journal Vision d'Afrique qui titre à ça une apothéose de la 51e édition d'Aïzan a tenu toutes ses promesses sous le regard affirmatif de la PA Yawa Tchegan. Et aussi l'Union pour la patrie Aïzan 2023 au-delà d'une fête traditionnelle. Représentant Fort Nyasimbe, Yawa Tchegan partage la joie des natifs de Zion. Et également, alors, sur d'autres plateformes numériques, bien évidemment, ou des journaux en ligne, on est revenu sur cette fête traditionnelle. Uriel, c'est vrai que notre culture, notre tradition doit être célébrée.
Oui, vous savez, nous n'allons pas parler que d'Aïzan dans la préfecture de Zio, puisque les confrères ont mis l'accent sur la représentativité.
Oui.
Les fêtes traditionnelles, au-delà de leur sens, au-delà de la nature, et nous comprenons que ce sont des occasions de retrouvailles, mais aussi de communion, de partage et de fraternité. Ce n'est pas pour rien que lors d'une célébration ou d'une autre, vous voyez les autorités affilées vers ces côtés-là. C'est pour communier ensemble, parce que ce n'est pas toujours le sens politique comme nous le voyons. Puisqu'il y a Aïzan dans le Zio, vous trouverez Evala dans la Kouza, vous trouverez Singarine dans la Bina, vous trouverez dans toutes les préfectures même des fêtes séparées en village, en quartier, en communauté. Tout ça, c'est pour célébrer, magnifier nos cultures, notre identité culturelle. Nous devons les célébrer sans les effacer. Rien ne justifie l'effacement d'une culture, d'un peuple, et nous devons continuer à les préserver. Je pense que c'est pour cette raison que chaque année ou chaque fois, à chaque fois que l'occasion se présente, tout le monde, tous les ressortissants des milieux accourent pour préserver ces cultures-là, pour leur faire connaître aux générations futures. C'est très important lorsque vous permettez à votre culture de s'effacer. Vous-même, vous vous effacez et c'est très dangereux. Nous effaçons nos cultures pour les remplacer par quoi? Il n'y a pas de réponse. Nous devons les préserver et inviter aussi le ministre de la culture et du tourisme.
Et du tourisme.
Peut-être même inviter le gouvernement, parce que le ministre en lui-même ne peut rien faire s'il n'a pas les moyens à côté, de faire à telle enseigne que chaque culture puisse être préservée à tout prix. C'est très important. C'est à ce ministère-là qu'on peut confier cette mission. Puisque à la célébration de chaque fête, il n'y a pas que les natifs d'une localité. Il y a aussi les curieux, il y a aussi les visiteurs. Et tout cela, c'est la richesse d'un pays. On peut aussi en profiter.
Effectivement, on peut aussi en profiter. Et vous l'avez dit, mais Uriel, est-ce que vous avez l'impression que la cohésion sociale tant clamée, qu'on veut, qu'on ambitionne même d'ailleurs pour ces fêtes traditionnelles, est-ce que cette cohésion sociale arrive à prendre? Parce que je le dis, je sais que déjà dans ce week-end, il y a également des Végozan dans la commune du Golfe 6 qui a été célébré, et le maire d'Agboville a si bien dit que cette fête, c'est pour la cohésion sociale. Et je pense que pour d'autres fêtes aussi, on a toujours cet objectif bien défini pour ce qui concerne surtout la cohésion sociale, ou rassembler les fils et filles de la localité.
Vous savez, les fêtes traditionnelles, c'est tout comme un match de football. C'est tout comme nos équipes locales, notre équipe nationale. Lorsque l'équipe nationale joue ou une équipe locale joue, il n'y a pas de couleurs de partis politiques, il n'y a pas de conflits communautaires. Non, tout le monde se retrouve pour supporter l'équipe. C'est la même chose. Lorsque vous vous retrouvez sur un terrain de célébration d'une fête traditionnelle, c'est la cohésion. C'est la cohésion. Vous allez retrouver tous les partis politiques là-bas. Vous allez retrouver toutes les couleurs confondues. C'est des opportunités pour renforcer cette cohésion nationale dont on parle toujours. Et il n'y a pas autre occasion. Hein. Nous ne pouvons sceller la cohésion nationale, la cohésion de tout genre qu'à partir des célébrations des fêtes traditionnelles, à partir des manifestations sportives, à partir de tout ce que nous savons. Lorsqu'on se retrouve autour de ce plateau, des fois on ne sait pas qui est de quel bord, qui n'est pas de quel bord. Ce sont des opportunités à saisir et à ne pas lâcher.
Et c'est vrai que dans l'intervention même d'ailleurs du maire d'Agboville le samedi dernier, par rapport surtout à Dévogozan, il est revenu sur un sujet. Aujourd'hui, quand on prend même leur fête, il y a une politisation, ou cette fête même a été politisée. Est-ce que vous avez aussi l'impression que dans certaines localités, il y a la politique qui s'ingère dans cette question de fête traditionnelle?
Non, tu sais, nous sommes aussi invités à être objectifs dans nos analyses.
Tout à fait.
La politisation des fêtes traditionnelles, je pense que c'est là, on ne peut pas les nier, parce que quand vous prenez par exemple une fête comme Evala, la façon dont ça s'organise, la participation des autorités même, la planification de la fête.
Et toute l'administration même qui se déplace.
Toute l'administration, l'OME est complètement vidée.
Tout à fait.
C'est tout comme, on dirait, si on ne voit pas une tête au retour, elle ne se plantera plus dans son bureau. Vous voyez, c'est un peu délicat, mais pour un journaliste, ça lui serait très difficile de nier la politisation des fêtes traditionnelles. Si vous étiez sur le terrain le samedi, vous allez vous rendre compte aussi que, bon, au-delà de tout ce que nous disons, au-delà de cette cohésion nationale, au-delà de la communion, au-delà même du sens de la fête, mais il y a des partis politiques qui passent par ces occasions-là pour s'affirmer et pour renforcer leur implantation. Ça, on ne peut pas le nier. Est-il qu'on garde toujours la racine, le radical de la fête, et que les prestataires et que les prêtres traditionnels et la communauté qui maîtrise même le sens de la fête puissent la préserver dans son vrai sens. Parce que les fêtes, ce n'est pas tous les jours, mais quand il y en a, on sait qu'elles sont rassembleurs, il faut en profiter. Le politicien, toute occasion est une opportunité. Donc tout ce qui se présente à lui, il saisit et puis il renforce son implantation. Ça, on ne peut même pas le nier, on ne peut pas faire quelque chose contre. Il faut tout faire pour préserver le sens, l'essence même de la fête, c'est ce qui est important.
Justement, Uriel, est-ce que cette forme alors de politisation hein, de ces fêtes traditionnelles aujourd'hui, est-ce que ça ne dénature pas cette tradition? Parce que des fois même d'ailleurs, quand vous allez dans certaines fêtes traditionnelles, vous ne retrouvez plus l'essence telle que vous l'avez dit, la matière première n'est plus retrouvée et que plutôt il y a du folklore.
Une fois que la fête est politisée, elle est dénaturée. Une fois qu'une tradition est politisée, elle est dénaturée. Ça c'est clair. Elle est dénaturée. La façon dont ça devrait se... Vous pensez que dans notre tradition, on doit retrouver les caméras sur les lieux? Vous êtes sûr qu'en réalité, on doit retrouver les caméras? Vous êtes sûr qu'on doit retrouver tout ce qui est moteur? On ne devrait même pas...
Il y a certaines caméras qui ont été grillées pour ça.
Oui, oui. Donc, vous comprenez que nous avons tout dénaturé dans un endroit où il est interdit de porter même simple tapette. Aujourd'hui, nous allons avec les chaussures en veste, nos caméras partout, on téléphone. Donc, la fête, elle est complètement dénaturée. La tradition est complètement dénaturée. Mais, vous savez aussi... du moment où nous-mêmes on a accepté d'autres religions externes qui sont venues même pratiquement prendre la place de nos traditions, nous ne pouvons même pas aujourd'hui accuser ni la politisation ni la dénaturalisation. On ne peut pas accuser quelqu'un. Nous-mêmes on a déjà accepté d'autres religions qui aujourd'hui notre tradition est mineure par rapport à la religion qui nous vient d'ailleurs. Vous êtes d'accord avec moi? Notre tradition, bon, c'est quand le moment arrive, nous nous y rendons pour faire acte de présence et puis on fait ce qu'il y a à faire, on se repose un peu, on revient. Ce n'est plus le vrai sens. Ben, bon, on souhaite quand même que les dieux de nos traditions continuent par vivre et qu'ils continuent par nous protéger.
Oui, c'est vrai que vous avez touché du doigt un problème aussi crucial. Je veux bien parler de ce problème alors de religion et que nous avons exporté et donc et que nous pratiquons aujourd'hui. Au-delà même d'ailleurs de ces religions, alors on se demande aujourd'hui si vraiment nos fêtes traditionnelles sont dénaturées telles que nous l'admettons tous. Finalement, à qui cela revient de restaurer ce qui est le naturel?
Non, vous savez, l'un de nos soucis, c'est de ne vouloir pas documenter nos traditions. Une chose est de parler de la dénaturalisation, mais il faut documenter nos traditions. Il faut les documenter pour que les générations futures puissent respecter à la lettre. Si ce n'est pas documenté, même si la politique ne s'ingère pas, ça se dénature au fil du temps. La façon dont les danses étaient exécutées, la façon dont les rites étaient observés, la façon dont la communauté observait cette fête dans son entièreté, ce n'est plus ça. Pourquoi? Parce que ce n'est pas écrit. Ce n'est pas écrit pour qu'on puisse respecter à la lettre. Aujourd'hui, le vieux qui était garant de ses us et coutumes, lorsqu'il meurt, on amène un fils pour dire, bon, c'est lui qui suivait le vieux lorsqu'il était vivant. Lui, il arrive, il commence par raconter des choses que, bon, sans tête ni queue, mais la communauté est obligée d'accepter et de faire avec.
Est-ce que ça veut dire
et après, vieux, lui, oui. Maintenant, l'autre vient. Ça, c'est de nature, tout simplement parce que ce n'est pas documenté. Ailleurs, ce n'est pas ça. Il faut documenter notre tradition, il faut documenter notre culture et se référer à ces documents-là. Et comme ça, vous voyez, quand vous allez dans la Kéran, par exemple, au niveau des sites Koutamaku, depuis que, je pense, si je ne me trompe pas, c'est depuis 2004 que le site Koutamaku dans la Kéran est reconnu comme patrimoine culturel de l'UNESCO. Donc, quand vous allez là-bas, les choses sont documentées. les choses sont documentées et c'est très difficile de constater la déformation. Donc, il faut qu'on documente, il faut qu'on les documente. Il y a des cultures qui tentent même à disparaître entièrement. Il y a l'exécution des danses même qui... Vous voyez, tout le monde appréciait la danse en pays Sola. Mais avec la modernisation, on a formé le groupe folklorique. Ça dit que la danse a été mécanisée. Et puis, lorsque tu assistes à ces cérémonies qu'on appelle les Ujombi, mais c'est autre chose que ce que nous on connaissait à notre enfance. Lorsque Yadema même venait par hélico lors de la circoncision en pays Sola, nous on courait. C'est parce que nous on a connu premièrement ce que l'hélicoptère. Mais la façon dont la cérémonie s'observait, ce n'est plus la même chose. Tout a été dénaturé. Tout a été complètement dénaturé. Mais la circoncision elle-même, elle a été dénaturée. Donc, pour répondre à votre question, qui doit être garant? Je pense que c'est ensemble, et l'autorité politique, et l'autorité administrative, et les chefs traditionnels, les prêtres traditionnels. Si vraiment nous voulons retrouver les vraies valeurs de notre tradition, il faudrait vraiment qu'au-delà des autres influences, qu'on revienne s'asseoir pour dire « Ah, c'est vrai, nous profitons de ces célébrations, mais il faudrait qu'on fasse un effort pour garantir l'essence même de cette tradition. » C'est ensemble que ça pourra se faire.
C'est ensemble que ça pourra se faire. Il est très important que nous, en tant que citoyens, nous fassions de notre possible alors pour apporter notre pierre, surtout à l'édifice, pour que cette construction de la tradition...
Justement, c'est ce que nous sommes en train de faire chaque jour, en attirant l'attention de tout le monde sur la nécessité de la préservation de ces cultures, de ces traditions, de ces rites, parce que ce sont nos valeurs, ce sont nos richesses, et c'est ce qui fait de nous ce que nous sommes.
Voilà. Uriel, nous sommes rejoints par un natif de Yoto qui est là, et je veux bien parler de Didier Assogba. Didier, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à Uriel, bonjour aux auditrices et auditeurs de Canal FM.
J'espère que tu vas bien.
Je vais moyennement bien. Je suivais votre débat en venant.
Oui.
Et c'est un sujet assez intéressant.
Voilà.
Donc, est-ce que nos fêtes traditionnelles sont dénaturées? Oui, elles n'ont plus leur sens premier. La faute à qui, vous l'avez bien dit, c'est parce qu'on a décidé de les politiser. Et pourquoi est-ce que nous sommes arrivés là? Comment est-ce qu'on peut corriger les choses? On ne peut rien corriger au niveau des fêtes traditionnelles si nous ne replaçons pas la chefferie traditionnelle dans son sens premier. Parce que... les fêtes traditionnelles, les contours, le sens même des fêtes traditionnelles se repose d'abord sur l'histoire de nos communautés. Et donc, ces histoires-là sont assurées et gardées et je veux dire, pérennisées en quelque sorte par les chefs traditionnels. Et les vrais désignés par les communautés, les conseils coutumiers.
Allez, est-ce qu'il y a des faux aussi aujourd'hui?
Oui, je veux dire qu'il y a des chefs qui sont chefs pour eux-mêmes et pour ceux qui les ont mis là-bas et qui ne sont pas chefs pour les communautés. Et ça, vous connaissez l'histoire, la crise de chefferie traditionnelle que nous avons dans le pays. Et c'est une sérieuse crise qui fait qu'aujourd'hui, oui, vous avez fait ce constat au niveau des fêtes traditionnelles. Et donc, ceux qui devraient garder la tradition, on les appelle gardiens des us et coutumes et tout ça, c'est des gens... c'est pas des gens à prendre quelque part dans un bureau à Lomé ici pour aller imposer là-bas. C'est des gens qui sont là-bas auprès des us, des coutumes, qui voient comment les choses se font, qui savent comment on salue, qui savent comment on reçoit, je veux dire, les salutations de l'invité, comment on fait. C'est des gens qui maîtrisent le milieu, qui savent comment fonctionnent les choses, des aïeux jusqu'aux ancêtres et jusqu'aux coparents, qui maîtrisent le milieu. Mais si on me prend moi, d'un bureau à Lomé ici, on veut me faire chef chez moi là-bas, qu'est-ce que je peux faire? Je vais vouloir faire des choses comme je vois à Lomé, ou comme je vois dans les grandes villes, voilà, moderniser les choses, mettre les apatames, inviter les groupes musicaux, les fanfares et tout ça. On danse et puis on se sépare. Après, qu'est-ce qu'il restera de la tradition? Elle va disparaître. Et donc, on va se plaindre pour nos fêtes traditionnelles. Si on ne met pas fin, ou je ne sais pas, on ne trouve pas une solution à la crise de la chefferie traditionnelle au Togo, je crains fort que, bon, dans les années à venir, nos enfants attendront seulement parler de fêtes traditionnelles, ils iront là-bas, il n'y aura rien de traditionnel.
Alors, Uriel a évoqué un sujet, c'est surtout la question alors du transfert de ces éléments ou de ces instruments traditionnels à la nouvelle génération. Est-ce que, vous ne trouvez pas qu'il y a un problème aussi à ce niveau, c'est-à-dire l'ancienne génération telle que cette génération doit transmettre les valeurs traditionnelles alors à la nouvelle, on manque quelque chose.
Vous savez, il faut, ce que vous dites là, la solution, pour comprendre pourquoi les choses se passent comme ça, et vous comprendrez tout à l'heure quand je vais finir le sens de mon intervention première. Alors, vous parlez de transfert des éléments de l'ancienne génération à la nouvelle génération. Alors que la tradition africaine n'a pas défini de classe ou d'école où on va et où on transmet des choses à des générations. En Afrique, ici, nous avons observé beaucoup de choses chez nos parents. Est-ce que ton papa t'a appris comment on tient la houe? Je ne crois pas.
Non.
Mais tu le vois tenir. Après, toi aussi, tu tentes de tenir et tu tiens. Ton papa ne t'a pas dit comment on cultive. Tu le vois faire et après, tu vois. En fait, la tradition africaine nous enseigne des choses quand nous les observons auprès des aînés, auprès des anciens. Et bien, c'est comme ça que nous pouvons pérenniser la tradition des anciens parce que nous les avons vus faire et après nous copions chez eux, à l'exception de quelques codes dans certaines contrées du pays. Mais généralement, la plupart des choses, c'est par observation. Vous assistez, on fait et vous enregistrez comment on fait. Pas enregistré avec un enregistreur dans le sens moderne d'aujourd'hui, mais parce que vous voyez souvent faire, ça reste en vous, vous connaissez le processus, comment on fait telle chose. Mais si ceux qui suivent les anciens et ils voient comment les anciens font les choses, quand le moment arrive de prendre la suite des anciens, on les écarte et on prend des gens, on dit ils sont cultivés. Ils peuvent discuter avec l'autorité. On les prend des bureaux. Vous voyez ce que je veux dire. Des gens qui n'ont jamais suivi les rites, ils n'ont jamais rien vu. Et ils ont fait des études. Ils travaillent dans l'administration ou dans le secteur privé. Après, on dit, OK, il faut succéder aux anciens. On vient, on prend ceux-là qui n'ont rien observé depuis là. On vient les mettre là-bas. Lui, il n'a rien vu. Donc, il ne va rien pérenniser et après, quand il va partir, il ne va rien transmettre. Donc, c'est une sorte de rupture de lien. C'est à une sorte de rupture de lien qu'on assiste depuis quelque temps chez nous. Et je pense fondamentalement que cela doit intéresser nos autorités à vérifier et à voir de façon à ce que nos rites, si on veut sauvegarder nos rites, nos coutumes, tout ce que nous faisons, nos traditions, il faut véritablement que ça soit les gens qui ont vu et qui connaissent, qui pérennisent. Si on veut moderniser la chefferie en mettant les gens diplômés, des gens tout ça, pendant que eux ils étaient à l'école dans les études, d'autres sont en train d'observer les vraies traditions et les vrais us. Et donc si vous les écartez parce que ils n'ont pas le niveau scolaire, le bagage qu'il faut pour discuter directement avec l'autorité et parler le bon français et tout ce que vous voulez, ben voilà, ça va être ce problème là. Moi je connais des chefs traditionnels qui parlent jamais français. Ils ne parlent jamais français, ils ne comprennent pas français.
Ils ont les bagages.
Mais ils ont été les meilleurs dans leur milieu parce que le conseil coutumier en a décidé ainsi. Mais aujourd'hui, allez voir un peu partout sur les territoires. Il n'y a que des intellectuels. Voilà. Après, quand ils faisaient des études, est-ce qu'ils étaient chez les anciens pour voir ce qui se passe? Je ne dis pas qu'on doit mettre des gens aujourd'hui. Je pense que l'État fait des efforts en matière d'éducation et tout le monde au moins à un certain niveau. Mais il faut veiller à ce que les traditions, la chefferie et tout ce qui va avec soit confié à des gens qui ont vu les anciens faire et qui peuvent répéter ce que les anciens ont fait. C'est comme ça que nous pourrons transmettre ces éléments dont tu parles à la nouvelle génération.
Il y a aussi cette question de religion importée qui en est pour quelque chose. Si nous admettons que aujourd'hui nos traditions sont dénaturées, et ces religions importées aussi en sont pour quelque chose.
Bon, pourquoi on va accuser les religions importées si... Pourquoi on va accuser les religions importées si nos gardiens des us et coutumes savent bien faire leurs choses et savent transmettre et savent pérenniser? Je crois que c'est une question de choix. Il y a ceux qui ont choisi d'aller vers les religions importées. Mais il y en a aujourd'hui, je crois, selon les statistiques, à peu près 50% de Togolais qui ont décidé de rester avec la tradition, enfin, ce qu'on appelle pompeusement animisme, de rester avec nos croyances, les croyances africaines. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, si on a plus de personnes qui continuent de croire, enfin, de garder nos croyances endogènes par rapport aux religions importées, ben, si on veut accuser les religions importées d'avoir de l'influence sur les croyances premières, ça veut dire que ceux qui sont là-bas font peut-être ou ne sont pas sincères avec ce qu'ils sont en train de faire. C'est ce que je veux dire. Si on a 50% de Togolais aujourd'hui qui continuent d'avoir de garder les croyances endogènes, comme on le dit, et qu'on veut accuser les religions importées, christianisme, islam et bien d'autres, qui se partageraient les 50 autres %, si c'est les 50% là de religions importées pêle-mêle qui viennent influencer sur ceux qui sont majoritaires, ça pose un sérieux problème au niveau de ceux qui sont majoritaires. Donc, ça veut dire que il y a des choses à revoir à leur niveau pour naturellement ne pas avoir tendance à aller copier sur les religions importées, pour véritablement pérenniser, comme on dit, leur tradition, enfin leurs croyances, les croyances africaines et tout. Mais moi je pense que ça doit être ça.
Merci beaucoup Didier. Et Urel, vous voulez ajouter quelque chose avant qu'on finisse avec
Rapport à un aspect développé par Didier tout à l'heure, j'ai fini par comprendre que nous serons obligés d'aller se marier avec la pensée de comment vous l'appelez,
Senghor,
non pas Senghor, dans Sous l'orage, qui dit tout changer,
Seydou Badian
qui dit tout changer, nous devons vivre avec notre temps. Vous savez, aujourd'hui on demande à tout le monde d'aller à l'école, on ne dira à personne de rester pour développer la tradition dans son village. Donc tout le monde est contraint d'aller à l'école. Nous sommes tous allés à l'école, nos enfants iront à l'école, et ça sera difficile d'avoir des conservateurs de notre tradition.
Et là, c'est notre identité que nous perdons.
Nous perdons notre identité. Tout changer, nous devons vivre avec notre temps, pour dire que lorsque tout le monde ira à l'école, tout le monde sera intellectuel, personne ne mettra en pratique notre tradition. Et nous sommes obligés d'avancer avec. Alors, ce principe qui devrait conserver notre tradition va automatiquement disparaître. Et parlant de la transmission de cette culture qui pouvait passer par l'observation du faire et des limitations, je pense que c'est dans ça même il y a la métamorphose. Lorsqu'il me suffit tout simplement d'observer ce que Didier fait et de le faire pour que mon enfant ou quelqu'un d'autre puisse observer chez moi et faire dans ma façon de faire, je suis certain que je vais transformer ce que Didier a fait. Et dans la façon de faire, Pascal va transformer ce que j'ai fait. Et ainsi de suite, l'original va disparaître. Je pense que nous serons un jour contraints d'accepter qu'on va avancer. Puisqu'aujourd'hui, on parle du développement. On a des mairies, on a du tout ça. Si vous n'êtes pas, vous n'êtes pas un chef, d'abord, si vous n'avez pas fréquenté, il est difficile qu'on puisse vous choisir comme chef canton. Même chef village, aujourd'hui, il est très difficile. Peut-être, excusez-moi, c'est chez moi qu'on peut retrouver des chefs comme ça encore. Sinon, ailleurs, aujourd'hui, c'est des intellectuels pas possibles. Tu retrouves un chef canton quelque part, il va te sortir des développements. Toi-même, tu vas te poser la question, est-ce que je viens de Lomé? Mais c'est ça, on est obligé de faire avec.
Oui, donc là, je suis d'accord avec toi. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a des efforts qui sont menés pour que au moins tout le monde soit scolarisé ou que tout le monde fasse des études. À ce moment-là, quelle est la responsabilité? Qu'est-ce qu'on définit? Quelle est la politique qu'on met en place pour que, en même temps que des gens vont loin dans des études, continuent d'observer, continuent d'aller voir ce que font les anciens
et de conserver
et de pouvoir, voilà, à la suite, quand ils vont revenir prendre pour en même temps travailler de façon administrative avec l'État et continuer également par garder les us et coutumes, il faut faire cette panachée là, travailler à ce qu'on ait cette panachée là pour que ce qu'on va mettre demain à la tête de nos cantons, de nos villages comme chef et tout ça, ne soient pas des gens totalement en déphasage avec ce qui se faisait par les anciens. Mais oui, autant ils ont évolué dans les études, autant ils ont gardé quand même ce que faisaient les ancêtres, ce que faisaient les anciens, pour que au moins on puisse avoir le sens, pas peut-être la totalité, mais on connaît l'essentiel de nos traditions et de nos et de nos coutumes. Je pense que cela pourra permettre justement que, à ce qu'au niveau des fêtes traditionnelles, il n'y ait pas cette dénaturalisation complète de ce qu'on fait.
Merci beaucoup pour le débat sur ce sujet. Nous allons aborder un autre sujet. Et Uriel, c'est vous qui nous donnez le second sujet à aborder ce matin. Et Méga Info, bien évidemment. Vous parlez de l'aménagement, assainissement et bitumage de rue. Et vous dites à la une de votre journal que le gouvernement poursuit le contrôle et évaluation.
Oui, le gouvernement poursuit le contrôle, d'abord le suivi, contrôle et évaluation. C'est à partir de la sortie de Madame le Premier ministre à Tapamé et à Nien que nous avons tiré notre angle de traitement de l'information. Ils étaient à Tapamé pour suivre l'état d'avancement des travaux dans la construction de la voirie d'Atapamé et d'Anien. Je pense que ces temps-ci, ou peut-être depuis l'arrivée de cette dame à la tête du gouvernement, le suivi des chantiers a changé de nature, franchement. Et puis, je pense que c'est ce qui devrait être fait auparavant pour qu'on évite le cafouillage dans l'exécution de certains chantiers, surtout des chantiers liés au BTP. Maintenant, précisément à Tapamé, à Nier, c'est la construction de certaines rues à l'intérieur de ces communes-là. Et au plan national, maintenant, je pense que nous les suivons tous dans la région des savanes, dans les plateaux, la route qui quitte Lomé pour aller à Palimé. Le gouvernement fait régulièrement le suivi. Et pour nous, notre angle de traitement a un objectif. C'est pour peut-être encourager les membres du gouvernement, chacun en ce qui le concerne, à multiplier, à maintenir ce sens de suivi, parce qu'après tout, les fonds qui servent à construire et les écoles, et les routes, et les dispensaires, et les marchés, c'est le contribuable. Alors, lorsqu'il n'y a pas un suivi, on laisse l'entrepreneur continuer. Ce n'est pas à la fin, lorsque le bâtiment va s'écrouler, qu'on va commencer par poser des questions, qu'est-ce qui ne s'est pas bien passé. Je pense que c'est cette forme de travail qu'il faut effectuer régulièrement sur le terrain. Lorsqu'on voit le premier ministre sur le terrain avec la ministre des Travaux publics et les ingénieurs en travaux publics, faire ce suivi-là, ça attire l'attention de l'entrepreneur aussi. Peut-être qu'il était en train de faire une chose. Voyant les autorités sur les lieux, il va changer de couleur, il va dire « Ah mais tiens, j'ai des yeux, j'ai un regard qui me suit, je dois bien faire. » D'ailleurs, s'il ne fait pas bien, en réalité, il n'a pas la chance de gagner encore un marché, parce que qu'à la fin de l'exécution des marchés, tu as le devoir de demander un certificat de bonne fin d'exécution. Alors, ce travail, c'est pour attirer l'attention des entrepreneurs qui ont le devoir de bien faire, et attirer aussi l'attention du gouvernement, de tous les membres du gouvernement, à multiplier ces genres de suivi. C'est pour l'intérêt du peuple.
Didier, une chose est d'injecter de l'argent dans ces travaux, mais l'autre, c'est d'avoir aussi les yeux regardants sur les travaux jusqu'à ce que ces travaux n'aillent à terme.
Oui, c'est normal. C'est normal le suivi des travaux et l'inspection. Je pense que ce genre de mission permet souvent de recadrer les entrepreneurs et de leur faire comprendre que l'autorité est assez regardante dans ce qui est en train d'être fait. Parce que on ne va pas sortir de l'argent. La plupart des fois, ces travaux sont exécutés à partir des prêts. Et que nous aurons à payer, ou que notre génération, ou soit la génération suivante, va avoir à payer. Et donc, on ne va pas laisser des entrepreneurs bricoler certaines choses sur la route ou sur des chantiers comme ça et repartir. Après, on voit souvent que le manque de suivi et le manque d'évaluation d'un certain nombre de réalisations fait que, quelques temps seulement après la fin des travaux, on voit qu'il y a encore des dégradations. Et le suivi par les autorités, de façon comme ça, médiatique, c'est bien. Mais je pense que également il faut veiller à ce que des experts fassent souvent partie de ces missions-là pour expliquer à l'autorité la qualité ou le niveau de réalisation, cette qualité-là, ce que ça donne, pour que l'autorité comprenne justement que est-ce que le cahier de charge qui est confié à l'entreprise est en train véritablement d'être respecté. Parce que après, souvent on fait ces visites sur le terrain, mais après la réalisation des travaux, vous allez voir, 6 mois après, 1 an après, des dégradations vont commencer au niveau de ces travaux-là. Et les gens auront justement accusé les autorités de dire qu'elles ont quand même visité le chantier, qu'elles ont eu à faire. Donc je pense que oui, c'est très très bien de mettre, c'est une façon déjà de dire que nous regardons, mais une autre façon de dire que c'est une pression sur vous, faites rapidement et respectez le temps, et respectez le cahier de charge. Mais au-delà, il faut que les autorités missionnent les bureaux de contrôle de qualité pour qu'on voit véritablement que la qualité de la réalisation respecte ou est conforme à ce qui est demandé sur le papier.
Oui, bureau de contrôle de qualité, oui, mais bureau de contrôle
de qualité patriote,
incorruptible.
Voilà, c'est ça que je dis. Oui, de qualité patriote, honnête, oui, parce qu'on sait, on peut corrompre les bureaux de contrôle. Oui. Ils vont dire que c'est bien, mais après, vous allez voir que c'est rien du tout. C'est pour ça que je précise. Les bureaux de contrôle de qualité d'abord. Oui. Patriote et honnête.
Et je pense quand même que nous avons des personnes qui peuvent facilement faire ce travail. Ce travail même d'ailleurs pour composer même ce bureau en question. Je veux dire, c'est-à-dire qu'il ne soit pas aussi corrompu et qu'il fasse le travail d'une manière patriotique.
Oui, mais dans chaque domaine, il y a des cabinets de bureaux de contrôle. Dans tous les domaines, nous avons des cabinets de bureaux de contrôle. Le problème se pose à quel niveau? C'est ce que Didier venait de dire. C'est au niveau de la corruption. Vous êtes là, vous descendez sur le terrain pour suivre, évaluer l'état d'avancement des travaux de construction d'une route. Vous arrivez, et avant même de démarrer le travail, c'est le patron même de la structure prestataire qui vous prend en aparté, qui vous explique certains trucs et puis qui vous met des choses dans les valises. Et puis bon, voilà. Et au lieu d'appliquer ce que vos yeux voient, vous êtes contraint d'appliquer autre chose. L'argent, c'est un Satan. Ce qui fait que des routes construites, par exemple, pour avoir une durée de vie de 30 ans, ne font qu'un an. Des fois, ça ne fait même pas un an. Et l'État est obligé de mobiliser encore d'autres ressources pour la construction. C'est la même chose pour les bâtiments. C'est la même chose pour la construction des centres de santé, des marchés. Tout ce que nous voyons mal construit, c'est ce qui se passe. Il faut des bureaux de contrôle incorruptibles. Des gens, s'il faut même engager, bon, j'ai dit de n'importe quoi, peut-être un peu bête, s'il faut engager des responsables religieux pour composer, faire partie de ce bureau de contrôle, ayant la crainte de Dieu. Moi, je me dis que les patrons, les responsables religieux ont la crainte de Dieu. S'il faut même associer ces gens-là, ça ferait du bien parce que des fois, partout où on les associe, on voit quand même que ça marche. Sinon, le gros problème, les gens ne le savent pas souvent, de nos structures et de la prestation même, c'est les bureaux de contrôle. Ils sont là, ils connaissent leur travail, mais face à la corruption, tout chancelle.
Vous parlez alors des hommes religieux qui peuvent faire le travail. Vous l'avez dit, que l'argent, c'est le diable. Oui. Ils sont aussi tentés,
oui.
Didier.
Oui, naturellement, tout homme, tout ce qui est humain, tout ce qui porte la chair là est tenté. Mais je crois qu'il y a, devant cette tentation, il y a certains qui ont la possibilité de pouvoir transcender, d'avoir d'autres raisonnements, d'autres éléments qui leur permettent de surmonter cette tentation-là. Mais voilà, vous voulez mettre un monseigneur et un jeune qui vient de finir ses études à l'université et qu'on met dans un bureau, dans un cabinet de contrôle et qui va sur le terrain et, bon, qui regarde 20 millions, 30 millions, on lui dit, bon, mon frère, oui, on sait ce que tu veux dire là, oui, c'est correct, mais essaye de revoir ton rapport, avec déjà l'argent là-bas. Mais c'est très compliqué pour le jeune de pouvoir tenir. Et donc, du coup, ce qu'il dit, c'est assez important. Mais je pense également qu'il faut véritablement que l'État veille à ce que les factures demandées ou les frais de prestation demandés par ces billets de bureau de contrôle soient véritablement ce qu'on leur paye pour qu'il n'ait pas cette tentation-là de vouloir combler le gap en prenant chez les entreprises ici et là. Parce que les routes, normalement, comme il a dit, c'est parti pour 30 ans, pour si on a même la chance au-delà, avant de revoir, d'avoir à reconstruire. Mais si, à cause de ce que les gens n'ont pas bien fait leur travail, ils savent pertinemment, mais ils n'ont pas bien fait, et que un an après, deux ans après, il faut que la SAFER, c'est ça, commence par reprendre, à faire des entretiens sur des routes nouvellement construites, c'est même pas honorable pour notre pays, d'abord, et puis ben, ça va être grave pour la République. Donc il faut véritablement qu'on veille à tout ça, que ceux qui travaillent dans le bureau de contrôle sont des gens assez honnêtes, qui méritent leur qui méritent le salaire qu'on leur paye, ou qu'on leur paye le salaire qu'ils méritent, et qu'ils fassent véritablement leur travail. D'abord, je le dis en tout patriotisme, en toute honnêteté, et je pense que ça ira mieux pour nous.
Et puis, je pense aussi que lorsque, si vous permettez, lorsque Aplusia aura ce pouvoir d'investigation, tous ces problèmes-là trouveront des solutions. C'est parce que jusqu'ici, ils n'ont pas le pouvoir d'investigation et qu'on a encore certaines difficultés sur le tapis. Lorsqu'ils l'auront, ils vont exercer en toute liberté et en toute efficacité leur mission, et le pays même aura moins de problèmes.
Voilà. Uriel, nous restons avec vous, mais nous allons aborder un autre sujet. Ces derniers temps, nous sommes en train de constater que des partis politiques, surtout de l'opposition, se réunissent ou se rassemblent pour former des coalitions. Nous avons l'Alliance Ensemble qui est un creuset également d'espoir, comme le titre ce matin vient d'Afrique. Et nous avons aussi ce grand mouvement citoyen a été créé entre-temps aussi par des partis politiques comme les FDR qui étaient même en congrès le samedi dernier. Il y a aussi l'UFC qui était en congrès aussi le samedi dernier. Et donc, quand on prend ces rassemblements des partis politiques, cette alliance Uriel, est-ce qu'on pourra dire que avec ces rassemblements, l'union de l'opposition est envisagée?
Peut-être que j'apporterai un développement incomplet. Et donc, voilà, c'est. Au regard de tout ce qu'on a vécu depuis qu'on connaît l'opposition togolaise, il faut être plutôt un saint Thomas. Je ne crois pas, peut-être qu'on dira qu'un journaliste n'affirme pas ainsi, mais au regard de tout ce qu'on a vécu jusqu'ici, je ne crois pas encore à une coalition sincère. Je ne crois pas. Moi, je ne crois pas parce que on a vu toute forme de coalition au Togo et on continue de la voir. Il n'y a pas une forme de coalition qu'on n'a pas vue dans ce pays au niveau de l'opposition. Arc-en-ciel, tout ce que vous voulez.
On et toutes les couleurs.
Toutes les couleurs, on a vu. Mais ça n'a jamais marché. Ça n'a jamais. Moi, je pense qu'ils ont leur objectif ailleurs. Vous savez, en politique, lorsque vous formez une coalition, vous attirez l'attention du pouvoir en place. Quand vous attirez l'attention du pouvoir en place, le pouvoir aussi commence par mettre ses stratégies en place aussi pour voir de quoi vous êtes capable. C'est là que ce type de coalition, entre guillemets non sincère, tombe dans le piège. Je n'ai pas encore vu une coalition sincère au Togo et je me garde de les apprécier pour dire, par exemple, que demain sera meilleur en termes de coalition de toute l'opposition pour faire face au pouvoir ensemble. C'est des plaisantins des fois, excusez-moi le mot, c'est des comédiens.
Est-ce que ce n'est pas fort?
Non, c'est pas fort parce que c'est pas une insulte, c'est pas du tout une insulte, c'est pas en fonction de l'acte ou des actions que vous posez régulièrement aux yeux du peuple qu'on vous apprécie. Ça, c'est tout à fait normal. Vous voyez des coalitions qui se forment en 24 heures, de cette même coalition sort une autre coalition. Vous comprenez mieux que moi.
Didier, on pourra donner raison à Uriel quand on prend le grand mouvement citoyen qui a été créé, aussitôt créé, il y a le mouvement Lidao qui claque la porte, et le mouvement Lidao alors de Thomas Kumu qui claque la porte. Et finalement, il y a les vieux démons qui sont toujours là.
Oui, vous les appelez les vieux. Est-ce que c'est vieux démons? Je pense que c'est les démons. c'est les démons de l'opposition togolaise. Et ces démons-là, ils ne sont pas autant vieux parce qu'ils sont toujours actifs. Donc, depuis 1990, 91, tout ce que vous avez connu, les phares, les codes 1, les codes 2, jusqu'à notre période contemporaine, on en a vu un peu. Déjà en 2005, on a vu un grand regroupement. 2010, vous avez vu le FRAC, vous avez vu d'autres...
L'arc-en-ciel.
Voilà. Non, les arc-en-ciel, c'est après 2012, là. 2012 avec CS, collectif sur le Togo, puis arc-en-ciel. On arrive à CAP 2015.
Tout à fait.
Après, on a vu la... On a vu d'abord le G6 en 2016, puis la coalition des 14 partis politiques 2017.
C14.
Voilà, et bon, vous avez vu DMK et DM, tout
DMP.
Ce qui, DMK et DM, tout ce qu'il y a. Puis on a de l'autre côté, on a GMC. Et puis voilà, ensemble. Ben, ça veut dire que les démons là continuent de travailler. Ils ne sont pas vieux, ils sont des démons recyclés, actualisés et qui continuent de trouver leur sens, de continuer à travailler. Enfin, moi, je pense fondamentalement que tout ce que nous offrent aujourd'hui les entités de l'opposition togolaise, c'est parce que elles n'ont pas encore compris le sens premier de la lutte qu'elles sont en train de mener. Et peut-être que plusieurs se trompent sur l'objectif. Plusieurs se trompent sur l'objectif. Si l'objectif recherché, c'est l'alternance politique à la tête du pays, je pense que il faut travailler, les gens devraient travailler dans le sens de l'alternance d'abord, avant de travailler sur la personne qui réalise ou qu'on met devant pour réaliser. Je pense qu'ils ont déjà raté le coche. La plupart des partis politiques de l'opposition, des entités de l'opposition, travaillent d'abord sur la personne qui doit y arriver, qui doit être premier de notre relais foi, je ne sais pas combien de mètres. Il travaille d'abord sur la personne qui doit être la dernière personne à réaliser, au lieu de travailler sur quelle stratégie on met en place pour que nous soyons les premiers dans la course. Ils ne font pas ça. Et je crois que c'est tout le problème, c'est pour ça qu'on assiste à ça. La plupart des problèmes dans les partis politiques d'opposition, dans les regroupements, leur formation ou leur dislocation et tout ça, c'est une question de personne. Et quand on met les questions de personne devant, on ne va jamais atteindre l'objectif premier. On laisse l'objectif de côté et l'adversaire en profite allègrement et avance. Pendant que vous travaillez sur la personne, la tête de Pascal qui ne plaît pas ou le nez de Uriel que je ne veux pas regarder, mais l'adversaire, il avance tranquillement. Et donc, le temps que vous vous rendez compte qu'on se trompait, on va reformer une autre coalition pour voir comment on se met ensemble pour aller faire face à l'adversaire, très rapidement, quelqu'un a dit, mais pourquoi vous avez mis celui-ci ici? Moi, je voudrais être là de l'autre côté. Et puis, ben, vous comprenez pas, vous vous séparez. Je vois que tant que ça va continuer, on va multiplier les regroupements sur les regroupements, les coalitions sur les coalitions. Ben, l'objectif ne sera jamais atteint tant que les gens ne comprennent pas que c'est l'objectif qu'il faut poursuivre d'abord. Après, bon, on peut mettre n'importe qui. Dans ce pays, des gens ont dit, on peut mettre n'importe qui comme candidat de l'opposition, avoir le score de... Voilà. Donc, du coup, si c'est vérifié qu'on peut mettre n'importe qui peut réaliser le score que l'opposition peut réaliser, donc travaillons, mettez en place les stratégies qu'il faut pour que, quand on va finir par mettre n'importe qui là, le n'importe qui là rapporte la victoire pour l'ensemble. Ou bien, au lieu de laisser les stratégies de côté, les actions de côté, et on veut voir, je n'aime pas la tête de celui-ci, je ne veux pas voir le pied de l'autre, et du coup, finalement, l'objectif est là. On se bat entre personnes, entre les gens des gens qui auraient insulté, les gens qui n'auraient pas insulté, les gens qui ont donné des excuses, les gens qui ne voulaient pas donner, les gens qui sont allés trop loin ou des gens qui sont restés ici, qui ne font rien. Pendant qu'on est en train de faire tout ça là, ben oui, notre grand parti est sur le terrain et en train de remobiliser. Vous avez vu le terme utilisé dernièrement, de remobiliser. Et donc oui, pendant que les gens forment des coalitions et ne s'entendent plus sur la finalité, le grand parti est sur le terrain en train de remobiliser là.
Oui, oui, mais en clair, oui. On peut même interroger nos auditeurs, on peut leur poser la question, est-ce que vous pensez qu'un jour viendra, vous allez retrouver Jean-Pierre Fabre, par exemple, avec Jules Chris Olympio, avec les Abbas Kabwa, avec les Jerry Tama, prêtez-moi d'autres noms.
Tout cela Jasona Traoré,
Jasona Traoré, tout cela, oui,
Agbenyome, Madame Adjamabo,
bon, Adjamabo en exil, tout cela, maître, comment, Agbenyome Kodjo,
oui.
Est-ce que nous sommes sûrs qu'un jour ceux-là vont se retrouver ensemble pour former une coalition, puisque c'est eux que nous appelons opposants, ils ont le statut d'opposants, est-ce qu'ils pourront se retrouver un jour ensemble? C'est ça la réponse à votre question. Il faut qu'on soit clair. Ces noms-là, ne parlons même pas de leur parti politique. Ces noms, est-ce qu'ils pourront se retrouver ensemble un jour? Je pense que ça va finir par des coups de poing.
Donc ce sera une coalition contre nature.
Non, ça n'arrivera même pas. Ça n'arrivera pas.
C'est
donc possible. La question que pose Uriel décrit mieux ce que le développement que je faisais. Donc du coup, tant que les gens-là, les personnalités,
les noms que nous avons
les noms que nous venons de citer, c'est les noms les plus en vue de l'opposition. Tant que ces gens ne peuvent pas se mettre ensemble, définir une stratégie claire pour la lutte au niveau de l'opposition, donc ça veut dire que l'objectif dont nous parlons, l'objectif ne sera jamais atteint. Voilà, donc oui, ne nous leurrons pas, que les Togolais comprennent clairement les choses dans ce sens-là.
Alors, nous allons nous transporter rapidement au Niger, puisque depuis un temps, il y a le Niger qui fait toujours l'actualité avec ce coup d'État et avec les derniers développements de ce coup d'État. Alors, les journaux sont revenus largement sur le sujet ce matin. Et Mega Info, Urel, vous êtes revenu sur le sujet, vous titrez à la une du journal ou de votre journal « Face aux sanctions de la CEDEAO, l'asphyxie gagne le Niger ». Et quand on prend Nouvelle Opinion, titre à sa une aussi, CEDEAO Niger, les chefs d'État pour une intervention militaire, et les parlementaires désapprouvent. Et effectivement, nous avons vu déjà avec les derniers développements lors du sujet, aujourd'hui, il y a les chefs d'État, certains chefs d'État même d'ailleurs qui ne sont pas pour, et il y a aussi les parlementaires même d'ailleurs qui ne sont pas pour cette question lors d'intervention militaire au Niger. D'aucuns disent même d'ailleurs que ça va créer même l'embrasement de toute la sous-région. Alors, finalement, Uriel, qu'est-ce que vous pensez même d'ailleurs de cette intervention de militaire de la CEDEAO au Niger?
Non, est-ce qu'un journaliste est capable de dire quelque chose sur l'intervention militaire de la CEDEAO au Niger?
Et c'est une forme d'analyse.
Oui, c'est une forme d'analyse, mais si vous permettez, je voulais revenir un peu sur le traitement de l'information que nous avons accordé à cet événement qui fait la une dans le monde.
Oui.
Savez, nous disons que face aux sanctions de la CEDEAO, le Niger dans son ensemble, ça suffit. Oui, parce que si vous vous renseignez, nous avons d'ailleurs actuellement des Togolais qui ont déjà quitté Niamey pour regagner. Vous savez que nous avons une communauté très forte togolaise au Niger. Quand nos petites sœurs, nos sœurs, nos frères quittent, c'est Niamey, tout le monde c'est Niamey. Aujourd'hui, ils ont déjà regagné parce qu'ils ne savent pas ce que leur réserve le lendemain. Mais avec la fermeture de frontières associée à toute autre sanction, je vous assure qu'aujourd'hui, les Nigériens peinent à s'en sortir. Quoi qu'ils aient un courage pour tenir et soutenir la junte, ça ne va pas parce qu'au Niger, vous ne pouvez pas effectuer une opération à plus de 10 000 francs dans une banque. Alors, les produits de première nécessité sont devenus très rares. Mais le Nigérien, tel qu'on nous l'a décrit, c'est quelqu'un qui tient à sa position parce qu'il sait, il sait que ce qu'il est en train de chercher, c'est pour la bonne cause. Sinon, les Nigériens sont asphyxiés et nous nous demandons si ça vaut la peine que la fermeture des frontières continue parce que le peuple qui souffre aujourd'hui, ce peuple ne fait partie ni de la junte, ni de la coalition comment vous l'appelez
le conseil
de Bazoum.
Oui.
Donc je pense qu'il va falloir que la CEDEAO réfléchisse encore pour ouvrir les frontières, permettre aux gens de se soigner puisqu'avec la fermeture des frontières les pharmacies même souffrent actuellement de médicaments. Les hôpitaux souffrent de médicaments. Et je pense que ce n'est pas encore la bonne solution. Ouvrir les frontières, surtout ouvrir les frontières pour permettre aux populations de se nourrir. Puisque le président dessus, il est dans les mains de la junte.
Oui.
La junte qu'on tente sanctionner, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, un membre du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie est en train de souffrir. Hein. Non, il y a fermeture de frontières, il y a tout, mais il y a des gens qui ne vont pas souffrir. Il y a des gens qui vivront jusqu'à l'ouverture des frontières. C'est le bas peuple que nous sommes qui va continuer par souffrir. Autant ouvrir ses frontières pour permettre à la population de continuer par vivre et négocier avec la junte qui d'ailleurs hier, après la rencontre, lors de la rencontre avec les chefs religieux. A ouvertement dit hein, qu'elle est ouverte à toute forme de négociation, sans parler de l'intervention militaire qui n'aura même pas pratiquement lieu si la junte proclame encore qu'elle est ouverte à toute forme de négociation. Je pense qu'il faut en arriver. Il faut arriver à l'ouverture des frontières. Et aujourd'hui, ça ne sert pas à grand-chose. Ça ne sert pas vraiment à grand-chose pour que le peuple ne devienne pas rebelle contre la CEDEAO.
Alors, Didier, ce qu'on ne comprend pas chez la junte, c'est qu'au même moment que la junte reçoit les chefs religieux pour dire que non, et elle est disponible même d'ailleurs pour toute négociation, la junte déclare également qu'elle va amener ou traduire Bazoum devant les juridictions pour haute trahison.
Oui, est-ce que c'est ne pas comprendre? Il y a depuis à peu près une semaine déjà, on a eu cette information du Niger, depuis bien avant, hein, depuis qu'il avait le. On a fait publier,
oui.
Il faut être honnête, depuis qu'on avait fait publier une lettre au nom de Mohamed Bazoum dans le Washington Post. Ben, ça courait depuis là-bas à Niamey que le président déchu pourrait être poursuivi pour haute trahison. Donc, s'il était, bon, si on est dans la logique de la France et de la CEDEAO, de la CEDEAO, qui dit que Bazoum est toujours, selon eux, le président là-bas du Niger, et la constitution nigérienne, actuellement en cours, là, interdit aux chefs d'État et aux autorités un certain nombre de comportements, un certain nombre de choses à faire. Et donc, le fait d'en appeler aux États-Unis d'intervenir, de venir pour le sortir de là, de venir agresser le Niger pour le sortir de là, est un comportement considéré là-bas par la constitution nigérienne comme une haute trahison. Et donc, des gens disait déjà là-bas que Bazoum n'avait pas pu envoyer cette lettre, que les gens l'ont écrite en son nom et envoyée à Washington Post, parce que Bazoum, très intelligent professeur de son état, n'aurait pas pu délibérément décider, connaissant bien cette disposition de la constitution, écrire cette lettre-là pour savoir que même l'intervention là-bas serait hypothétique, et savoir qu'au final, quand l'intervention n'aura pas lieu, il aurait pu être poursuivi pour haute trahison et être jeté en prison pour de longues années. Donc là, aujourd'hui, cette tendance est en train d'être confirmée, et je crois que des gens ne sont pas en train véritablement d'aider Mohamed Bazoum. Il faut plutôt travailler aujourd'hui à ce que Bazoum soit libéré et gagne un exil quelque part de façon tranquille, et qu'il ait au moins sa liberté de personne à aller à venir vivre sa vie quelque part, plutôt que de braquer et de tirer sur les ficelles, parce que là, si on va le condamner, si on le condamne pour haute trahison et atteinte à la sécurité intérieure et extérieure de l'État, et on va le jeter en prison, ça va compliquer encore davantage les choses, parce que la CEDEAO est en train de faire ce qu'elle fait. Tout le monde sait que la CEDEAO est karma sur la touche. Donc là, on dit la CEDEAO, mais on sait que à Abuja, la dernière fois, c'est seulement quelques chefs d'État qui ont décidé, notamment l'Ivoirien, même Sibola Tinubu a mis beaucoup d'eau dans son verre.
Justement.
L'autre est resté braqué sur sa position, avec le Béninois un peu qui tente d'imposer un certain nombre de choses. Mais on commence par voir des voix de chefs d'État de la CEDEAO qui commence par dire qu'ils ne sont pas pour, et des parlementaires. Donc je pense que un pouvoir, c'est, il n'y a pas de pouvoir sans armée.
Mmh.
Et donc l'armée aujourd'hui a récupéré le pouvoir là-bas, vaut mieux traiter avec elle plutôt que de vouloir faire sans elle. Mmh. Si même dans l'hypothèse où on rétablit Bazoum au pouvoir aujourd'hui, qui va le garder?
C'est une autre question.
Qui va assurer sa sécurité?
Voilà.
Comment est-ce qu'il va pouvoir gouverner un pays où les militaires et le peuple sont contre lui? Donc les gens de la CEDEAO, les militaires ivoiriens, sénégalais, vont venir le garder là-bas jusqu'à la fin de sa vie.
Nous savons qu'il est presque impossible de rétablir Bazoum dans ses fonctions aujourd'hui. Mais lorsque j'ai appris hier que le président Bazoum pourrait être traduit en justice pour trahison, pour haute trahison, j'ai dit, mais ce n'est pas pour ça que la junte est venue au pouvoir. Ce n'est pas pour cela. Quand ça commence comme ça, c'est pour gagner en temps. Ils commencent comme ça, ils vont se mettre en traiteur de dossier et ils vont passer des années là-bas et finalement, vous allez voir que les problèmes qu'ils clamaient résoudre ne vont pas trouver des solutions.
Mmh.
Une junte, ce n'est pas des hommes qui ont des critères d'appréciation dans leur poche pour apprécier les présidents démocratiquement élus. Vous avez dit que la situation est dégradante, c'est pourquoi vous avez pris les choses à main. Mais ne commencez pas par sortir des dossiers qui vont vous permettre de gagner en temps. Je pense que quand ça commence comme ça, la junte imite d'autres juntes et finalement on ne va pas s'en sortir.
Oui, non, c'est un mot dessus.
Dis rapidement.
Je crois qu'on aurait pu peut-être franchir cette étape depuis. Et si la CEDEAO avait pris le dossier du bon bout, on aurait peut-être déjà obtenu la libération de Bazoum, un certain nombre de dignitaires de son régime, et on n'en serait pas là. Mais c'est parce que la CEDEAO s'est engagée dans une procédure peut-être totalement bancale, totalement illégale sur le plan juridique et même de ses instruments, qu'on arrive là. Vous braquez les gens, qu'est-ce que vous voulez? Ils ont leur salut aujourd'hui, le salut des militaires nigériens aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont gardé Mohamed Bazoum. Mm. S'il n'avait pas gardé Bazoum, on ne serait peut-être dans d'autres tournures.
Mmh.
Donc, je crois que la CEDEAO devrait comprendre les choses dans ce sens-là et aller négocier, travailler pour qu'on libère au moins Bazoum, sa famille et les gens, leur gagner un exil quelque part. Après, on pourra négocier avec les militaires là sur la durée de la transition, comment il faut faire pour que la CEDEAO les accompagne. On met un envoyé spécial
merci
là-bas.
Merci beaucoup, Didier. Les gens nous ont écoutés, nos auditeurs nous ont écoutés pendant une heure de temps. Nous allons maintenant leur donner aussi la parole. Nous allons les écouter aussi se prononcer sur les sujets que nous avons débattus ici au Club de la Presse. Mais bien avant, nous allons faire un clin d'œil à nos annonceurs. 5. Retour sur le plateau ici dans l'émission Club de la Presse. Vous avez sans doute compris que maintenant vous avez la parole pour se prononcer sur des sujets débattus ici au Club de la Presse. Allô.
Allô, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Didier. Bon, moi, d'abord, les militaires, là, ils vont juger Bazoum sur la base de la constitution que eux-mêmes ont suspendue. Dans cette constitution, s'il est dit que tout homme qui tente un coup d'État est puni, c'est un qui m'imprécise. Donc, eux-mêmes, ils sont hors la loi. Et ce qui est marrant, nous avons trouvé des juges, là, des constitutionnels, comment l'appelle-t-on? Des juges constitutionnels, là, défaillants, là, devant qui ils vont prêter serment. Je voulais poser une question aux deux journalistes. Revenons au Togo. On a une situation délétère au nord et à l'insécurité.
Mm.
Si sous prétexte de ça, les militaires font un coup d'État fort, vous allez demander une transition que d'envoyer fort en exil. Il faut répondre à cette question sans détour, quoi. Nous sommes au Togo. La même situation passe au Togo. Vous allez supporter les militaires? Alors, c'est écrit dans la Constitution. On doit défendre la Constitution jusqu'à notre dernier goutte de sang. Merci beaucoup.
Merci beaucoup Didier. 22 21 33 114. Allô.
Allô, bonjour.
Bonjour, Monsieur Gado.
Monsieur Gado.
Oui, allez-y.
Oui, moi j'ai une proposition pour arrêter le problème de Niger.
Oui.
C'est-à-dire les présidents de la CEDEAO, les vastes en guerre, une fois encore réunis dans une maison pour décider comment aller faire la guerre là-bas, les militaires n'ont qu'à les séquestrer et ils vont signer la fin de la CEDEAO en même temps. Et ce coup d'état, ce monsieur-là, le bataillon, l'élimine et puis c'est fini. Merci, bonne journée.
Merci, bonne journée. 22 21 33 114. Allô.
Allô, bonjour, oui. Canal FM.
Oui, bonjour, comment vous allez?
Ça va.
Le nom?
C'est Waris.
Waris. Waris, allez-y.
Je vous appelle depuis Azan.
Depuis Azan.
Vous avez tout le plateau. Bon, et concernant la coalition, les coalitions qui se créent aujourd'hui un peu partout, je pense que nous sommes dans un pays de droit. Chacun est libre d'aller créer une coalition. Mais est-ce que aujourd'hui les Togolais se voient dans cette coalition-là? C'est une question que je me pose. Maintenant, je vais aller au niveau du Niger, ce qui se passe au Niger. Bon, je pense que la CDAO joue sa suivi. La CDAO joue sa suivi, puisqu'elle avait donné un ultimatum qui n'a pas été respecté, même qui est expiré, mais qui n'a pas été respecté. Bon, du côté de Bazoum, je pense que le président Bazoum n'est pas sérieux. Je vais m'excuser. Il n'est pas sérieux. Pourquoi je le dis? Puisque il donne plutôt la crédibilité à l'étranger, hein, y compris l'Occident, puisque son peuple qui lui a élu. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi je salue, je félicite l'initiative du président de la République togolais qui prône la voie diplomatique pour pouvoir régler ce problème. Pour installer aujourd'hui M. Bazoum, je ne pense pas que ça va passer par l'intervention militaire. Et qui va financer cette intervention? Est-ce que la CDAO a les moyens aujourd'hui pour pouvoir financer cette intervention? Si oui, pourquoi il n'a pas s'appuyé? Il n'a pas pu s'appuyer sur ces moyens-là pour faire face aux terroristes? Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Waris. 22 21 33 114 91 36 63 75, c'est les deux numéros sur lesquels vous pouvez nous appeler. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, c'est M. Kossi de Sagbado.
Monsieur Kossi, depuis Sagbado. Kossi, allez-y.
Oui, moi je vais rebondir par rapport au cas du Niger. Moi je dis ceci. On dit en effet, on connaît moi, on me fait les confrontations. Vous avez déjà retiré le pouvoir à la personne. Pourquoi l'incarcérer? Pourquoi le garder? Pourquoi le priver de liberté? Les militaires n'ont qu'à se réjouir du pouvoir et puis libérer Bazoum. Ils veulent lui reprocher tout ce que Bazoum a fait était mauvais. Ils n'ont qu'à laisser la France tranquille. Laissez Bazoum partir. Même s'ils veulent l'expulser, donc expulser, ils le laissent en liberté. S'ils ne veulent pas, vous voulez que la CEDEAO, qui est le père de tous les pays de la sous-région, laisse cela passer comme ça? Non, moi je suis d'accord que la CEDEAO aille faire libérer Bazoum. Merci, bonne émission.
Merci beaucoup, Kossi. 22 21 33 114. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Oui, ça va. Et chez vous? C'est le nom, c'est
Kokou.
Kokou?
Oui, Kokou.
Oui, Kokou, vous nous appelez de quel quartier?
Je salue tout le monde sur le plateau.
Oui, Kokou, allez-y.
Je voudrais seulement éclairer quelque chose. Selon moi, on dirait que les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire pour les gens. Selon moi, parce que il ne suffit pas de dire que le président est l'un des fans de la France ou bien des Occidents, et puis on le passe à coup d'État. Ou bien il n'est pas nigérien, ou bien les choses comme ça. C'est pas comme ça. Laissons après des CDAO, ou bien des cas de CDAO, laissons ça là de côté. Alors concrètement, c'est ce qui se passe. Tout ce qui se passe là par rapport aux sanctions, c'est un groupe nigérien. C'est un groupe la jette. Cette jeune-là, que j'ai utilisé M. le Mali, le Burkina, elle ne peut pas s'attendre.
Allô? Kokou, je pense qu'il est parti. 22 21 33 114. Allô?
Allô?
Oui, bonjour. Oui,
bonjour. Excusez-moi de revenir, Didier.
Didier?
Oui.
Allez-y.
Monsieur Muriel, il y a le protocole d'addition de la CDAO pour la bonne gouvernance. Le Togo n'a pas signé. Est-ce que ce comportement, ce n'est pas un affaiblissement de la CDAO? La communauté a fait des lois pour que nous, sur laquelle nous devons marcher, nous devons vivre. Et un pays refuse de signer. quelle est votre contribution pour que le Togo puisse signer le protocole de la CEDEAO?
Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Je pense que vous n'allez plus revenir, puisque ce n'est pas permis alors de revenir deux, trois fois même dans cette émission. 22-21-33-114. Allô?
Allô, bonjour.
Bonjour. Comment vous allez?
C'est monsieur Henri à l'appareil.
Pardon?
Monsieur Henri.
Monsieur Yaovi.
Oui, excusez-moi, je veux poser une question à nos journalistes qui sont là-bas. Est-ce que, selon les tests de la CEDEAO, quand il y a coup d'État dans un pays, est-ce que les tests permettent à la CEDEAO d'intervenir? C'est ça la question. Est-ce que la CEDEAO est dans une illégalité totale ou bien la CEDEAO fonctionne selon ces tests que nous nous sommes donnés? Mais je voulais savoir ça. D'accord. C'est important pour moi.
Merci beaucoup, Yaoui.
Est-ce que la CEDEAO a le droit, selon ce test, d'intervenir dans un pays?
Oui, c'est compris.
C'est ça ma question.
Voilà, merci beaucoup, Yaoui.
Merci beaucoup.
22-21-33-114. Allô?
Oui, bonjour, monsieur.
Bonjour, comment vous allez?
Oui, ça va bien.
Le nom, c'est
David.
David, vous nous appelez de quel quartier?
J'appelle Agoué.
Agoué, allez-y, David.
Ok, moi, je voulais juste savoir, ceux qui disent que la CEDEAO n'a qu'à intervenir, là. Bon, elle va intervenir comment? Pour libérer qui? C'est pour libérer Bazoum. Bon, actuellement, Bazoum est... dans la main de Poutine. Et si jamais... attends, il se croit dans un film de, je ne sais pas, où on va libérer un prisonnier quelque part, ou bien comment. Et si on tue finalement Bazoum dans cette bataille-là, finalement, ça va donner quoi? Mais prenons plutôt la négociation. Je ne comprends pas pourquoi les gens disent que la CEDEAO n'a qu'à intervenir. Et s'ils veulent tirer, ils n'ont qu'à aller au nord pour défendre les pays qui sont attaqués par les djihadistes. C'est mieux. Donc, moi, je prends un soutien pour la négociation, franchement.
Merci beaucoup, David. 22-21-33-114, 92-21-33-114, 91-36-63-75. Allô?
Allô? Bonjour.
Oui, bonjour, comment vous allez?
Bien.
Vous allez, s'il vous plaît, hausser un peu la voix.
Ah, bien, bien, bien.
Le nom, c'est...
C'est James.
James.
Oui.
Allez-y.
C'est par rapport à ce que se passe au Niger. Pour moi, je pense que les présidents de la CEDEAO, avec leurs complices, n'aiment pas Bazoum. Parce qu'ils veulent la mort de Bazoum. Au lieu de négocier, il veut aller avec la force et je ne suis pas sûr que ça soit une solution. Ils n'ont qu'à négocier. Sinon, s'ils veulent la vie de Bazoum, parce qu'il est entre des mains des Bouchis et ils savent que s'ils le laissent, eux aussi ne seront pas libres. Eux aussi, c'est la mort. Ils ont signé leur arrêt de mort. Alors là, avec les négociations, ça peut aller.
Vous optez pour la négociation. Merci beaucoup, James. Je pense que James, c'est notre dernier auditeur hein, pour le compte de cette émission de ce lundi. Nous revenons ici sur le plateau. Alors, vous avez écouté les uns et les autres se prononcer sur les sujets, mais vous avez compris quand même que beaucoup de personnes sont intéressées par la situation au Niger. Voilà. Quelle réaction vous faites, hein, Uriel, par rapport à tout ce qui, ou bien
rapidement, il y avait une question
effectivement.
Sur la proposition que je faisais que la CEDEAO devait négocier un exil pour Bazoum.
Tout
je crois
fait.
Que c'est mon homologue Didier qui a posé la question de savoir et si on était dans la même situation au Togo, est-ce que nous proposerons la même chose? Je veux dire d'abord que quand nous faisons des débats ici, c'est pour analyser l'actualité.
Tout à fait.
Donc ce qu'il est en train de dire là, on est dans une science-fiction. On ne sait pas de quel Togo il parle. Et donc, cela n'est jamais arrivé dans un Togo que je connais. Et donc, on ne peut pas analyser. Nous analysons au gré de quand il y avait eu un coup d'État. Nous l'avons dit, la première fois que j'intervenais ici, j'avais dit que tout coup d'État est condamnable et est condamné.
Tout à fait.
C'était pour le principe, il faut condamner. On avait condamné ce coup d'État. Et donc, du coup, s'il dit qu'on n'est pas... Bon, d'abord, moi, je suis au Togo, je ne crois pas qu'il y aurait un coup d'État au Togo. je n'en vois même pas la possibilité. Et donc, du coup, on ne peut pas se mettre dans les délires en imaginant des choses qui ne sont pas possibles. Donc, l'émission, ici, c'est pour analyser l'actualité.
Voilà.
Et l'actualité se passe au niveau du Niger. Mmh. Et donc, pour le moment, on est dans une situation de conflit et de tampon entre les militaires au pouvoir et la CDAO. Il y a une cristallisation là-bas. Les populations, nos frères et sœurs nigériens, y compris togolais qui vivent là-bas, sont en train de souffrir. Maintenant, quelles sont les solutions à mettre en branle pour sortir ou pour arriver à une sortie de crise? Et nous proposons, on n'a qu'à libérer Bazoum pour lui trouver quelque part où vivre mieux et pour être en paix. Je ne crois pas que c'est très mal de proposer ça. Donc voilà, c'est ce que j'ai à dire.
Sur c'est très sage, cette réponse.
Alors le même Didier revient pour m'adresser une question en me disant que le Togo n'est pas signataire du protocole additionnel de la CDAO. J'avoue ne pas le savoir. C'est lui qui m'en informe. Alors, si le Togo n'est pas signataire, et on va aller à l'information pour voir, c'est parce que c'est la première fois que je l'apprends et ça me surprendrait. En tout état de cause, vous savez, l'état Bazoum, aujourd'hui, même si on le libérait, je pense qu'il a suffisamment tiré les leçons. Et même au Niger, s'il n'est pas attaqué, Bazoum peut rester au Niger, il serait plus poli. Je ne crois pas que l'exil arrangerait ce monsieur-là avec sa famille. Tout exilé vit mal, quelles que soient les conditions qu'on lui offre. Peut-être que lui-même, il va choisir aller en exil comme lorsque les avions sénégalais avaient commencé par survoler le territoire gambien. Yaya Djamé même qui tenait à tout prix son siège pour dire je vais rester, personne ne va me déplacer. Lui-même il a appelé la Mauritanie pour venir le déplacer pour qu'il sorte par une bonne porte. Maintenant si lui-même il prend son téléphone pour appeler un autre président de la CDAO pour solliciter son assistance, là d'accord. Sinon je pense que personne ne tirera sur Bazoum parce que c'est un piège tendu actuellement à ce niveau-là. Si la junte tire sur Bazoum, là, elle offre l'opportunité à l'OTAN de venir intervenir. On viendra les saisir, les coopter comme des oiseaux pour les amener à la haie. Ça, c'est grave, c'est un piège. Ils n'oseront même pas tirer. Selon moi, Bazoum est la personne la mieux protégée actuellement au Niger. Personne ne va tirer sur lui, à moins que la junte commette cette erreur grave là de le tuer. Mais là vous allez voir la réaction et ça ne sera pas bon pour elle.
Il y a Yaouvi également qui a posé la question de savoir est-ce que déjà dans les tests de la CDAO, est-ce qu'il y a vraiment quelque part où il y a l'intervention militaire quand il y a de cas de ces genres de situations?
Bon, vous savez le problème de la CDAO, c'est qu'il y a beaucoup de tests. Il y a les tests fondateurs. Et puis, il y a des tests additionnels. Comme Didier en a parlé tout à l'heure, un mécanisme additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance. Il y a un autre mécanisme là, additionnel, relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement de conflits, de maintien de la paix et de sécurité. Donc, ce mécanisme-là aurait été signé à Lomé ici, en 1999, où il est dit quelque part dans au chapitre 5, à l'article 25 que la CDAO pourrait intervenir en cas de violation massive de droits de l'homme dans un pays, en cas de changement anticonstitutionnel dans un pays. Et donc oui, c'est dans ce mot anticonstitutionnel là que tout le monde met coup d'état et tout ce que vous voulez. Et donc je pense que c'est au nom de ce mécanisme là que la CDAO veut intervenir. Ben, voilà, si je veux reprendre Didier au mot, est-ce qu'on s'est assuré aujourd'hui que le Niger a véritablement signé ce mécanisme-là, puisque ce n'est pas les tests fondateurs de la CDAO. C'est des mécanismes additionnels, des tests additionnels. Est-ce que le Niger a signé? Est-ce que tous les États l'ont signé? Est-ce que tout le monde est pour? Comme il a dit, tout le monde n'a pas signé le mécanisme additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance. Donc, c'est voilà à peu près sur la base de ce test-là qu'on dit qu'on peut activer la force en attente, donc appeler Comog pour intervenir et tout ça. Même pour intervenir, et vous avez vu, les chefs d'État de la CDAO ont demandé à ce que l'Union africaine acceptent leurs décisions qu'ils avaient prises. Donc, il faut que l'Union africaine accepte cette décision, que le Conseil de sécurité de l'Union africaine se réunisse et décide sur cette intervention-là. Et au final, il y a le Conseil de sécurité de l'ONU, qui est le test de l'ONU, qui dit qu'il ne peut jamais y avoir d'intervention militaire dans une région. Si le Conseil de sécurité de l'ONU ne décide pas par une résolution.
Tout à fait.
Donc, à partir de ce moment-là, on est dans une arlésienne avec cette affaire d'intervention militaire au niveau du Niger. Et pendant ce temps, que veulent les gens? Que le président Bazoum meure là-bas et que sa famille et tous ceux qui sont arrêtés meurent là-bas. Voilà. La sagesse africaine, voilà, nous demande que une petite liberté, ça vaut mieux que la prison. Voilà.
Alors, Irène, nous sommes à la fin de cette émission. Rapidement, votre mot de la fin et aussi votre carton de fin d'émission.
Oui, carton, non. Mot de la fin, oui. Moi, je suis planté parce que je n'arrive pas à comprendre comment cette histoire de l'accord de l'Union africaine, de la Commission sécurité de l'ONU et tout ça avant une intervention militaire. Personne n'est pour une intervention militaire, mais je veux toujours comprendre et je continuerai par chercher à comprendre qu'est-ce qui avait été signé pour que la CEDEAO intervienne en Guinée, en Côte d'Ivoire, en Gambie, etc. Et quel document avait été signé avant que les forces militaires de la CEDEAO n'interviennent et attirer l'attention de la junte nigérienne que ce n'est pas important la rétention du président Bazoum actuellement, ce n'est pas du tout important. Ils n'ont qu'à le libérer et s'ils veulent gérer autrement le pays, sécuriser le pays, qu'ils continuent par sécuriser le pays et montrer l'exemple que vraiment ils avaient une belle intention.
Merci beaucoup Uriel. Didier?
Je crois aussi que, un peu comme les parlementaires de la CEDEAO, il faut que la CEDEAO redevienne une organisation des peuples et non une organisation où on défend des individus. Et je crois que sur cette affaire du Niger, par exemple, je crois qu'il y a beaucoup plus cette tendance-là de parler du président Bazoum que de parler du peuple du Niger. Et le peuple du Niger n'a même pas compté pour la CEDEAO puisque on a coupé même jusqu'aux médicaments à ce petit Nigérien qui est en train de mourir peut-être dans un hôpital. Donc ça veut dire que le peuple ne compte pas pour les dirigeants de la CEDEAO actuellement. Donc si on veut une organisation qui peut demain intervenir tranquillement quelque part et que tout le monde soutient, vous voyez que de façon unanime dans le pays de la CEDEAO, tout le monde est contre une intervention là-bas. Donc ça veut dire que la CEDEAO a une crise qu'elle doit chercher à résoudre d'abord.
Qu'attendre de fin d'émission?
Je n'en ai pas.
Merci à vous, Didier, alors d'avoir participé à cette émission. Je rappelle tout simplement que vous êtes le directeur du journal en ligne Togo Burkina News. Uriel Enyang, merci à toi d'avoir participé également à cette émission. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal Mega Info. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à Michel Tomega qui a assuré la mise en onde. Jérôme Akucha a assuré la mise en onde. Je suis Pascal Losso. On se retrouve la prochaine fois.